Lecture d'été, lecture des terres, tous les jours à 11h et à 16h et en replay sur fréquence7.net. Lecture d'été, lecture des terres. Chers curieuses et curieux, lectrices, liseuses, bouquineuses, bouquineurs aussi en tout genre, vous êtes bien, voire très bien, sur Fréquence 7 et vous écoutez Lecture d'été, Lecture des terres. Car oui, à l'heure de l'apéro, entre deux poignées de châtaignes, deux mobilhomes, vous vous demandez bien quel livre commencer pour vous détendre du préjugé. Vous dorez l'esprit critique et heureusement, les passeuses et passeurs de livres ici en Sud-Ardèche sont là pour vous répondre, pour vous conseiller et vous détourner du prêt à penser, du prêt à rêver, du prêt à lire. Et aujourd'hui, celui qui se prête à l'exercice, c'est Quentin, qu'on ne présente plus, Quentin de Fréquence 7.
Bonjour Sophie.
Alors Quentin, quelle lecture tu as envie de conseiller ?
Et ben là, j'ai retenu un petit ouvrage que j'ai lu au début de l'été et qui me marque beaucoup parce que je le trouve très important et déterminant dans la lecture de notre époque.
Alors, c'est quoi comme bouquin ?
Alors, c'est un assez court livre, un assez court essai écrit par Hugo Paletta et qui s'appelle « La Nouvelle Internationale Fasciste ».
La Nouvelle Internationale Fasciste, parue chez Textuel en 2022. Hugo Paletta, tu peux nous dire un mot de qui il est, des questions qu'il anime ?
Ouais, on peut présenter rapidement le personnage. Hugo Paletta, c'est un sociologue. Il est actuellement maître de conférence à l'Université de Lille. Il est aussi le co-directeur de la revue en ligne Contretemps. Contretemps, c'est une critique communiste du monde qui nous entoure. Professionnellement, il a commencé par étudier les inégalités en milieu scolaire, la façon dont elles sont produites et légitimées, et son analyse des politiques publiques de l'enseignement ont conduit à son sujet de thèse, et à partir de cette thèse, il a publié « La domination scolaire, sociologie de l'enseignement professionnel et de son public ». Après, il a réorienté ses travaux pour faire des recherches sur les inégalités ethno-raciales sur le marché du travail et les trajectoires des immigrés dans la société française. Du coup, il étudie en fait les logiques de racialisation pour comprendre le rôle que joue le racisme en France. Et par extension, donc, il se penche sur la dynamique néo-fasciste. Mmh. Et il analyse, je cite, « les effets politiques des contre-réformes néolibérales, le processus de durcissement autoritaire des États capitalistes, l'aiguisement des nationalismes sous l'effet de l'intensification du racisme, les théories du fascisme et la sociologie de l'extrême droite contemporaine.
Mmh. » Donc c'est l'étude des inégalités qui l'a conduit à ce nouveau sujet de recherche qu'est le fascisme. Il a écrit en effet plusieurs ouvrages sur le fascisme. En 2018, « La possibilité du fascisme », en 2021, « Face à la menace fasciste », et là donc en 2022, « La nouvelle internationale fasciste ». Alors quel est le propos du livre de cette internationale fasciste ?
Alors le propos de ce livre, c'est un livre, je disais, qui est assez court, qui fait moins d'une centaine de pages, il fait moins de 100 pages, donc il est idéal entre la piscine et l'apéro. Le sujet, c'est...
C'est ça, dans cet ordre-là, un peu de piscine et puis un apéro peut-être pour se remonter le moral. Enfin,
ou pour présenter ce qu'on a appris pendant la lecture, parce qu'en fait c'est une introduction en fait à cette thématique de l'international fasciste. Ce qu'il cherche à faire, c'est à expliquer les trajectoires du fascisme historique, la façon dont à la fin de 1945 c'est passé un peu en sous-main, comment les idées fascistes ont circulé dans la deuxième moitié du XXe siècle pour ressurgir aujourd'hui, non seulement en France mais aussi partout sur la planète. Là, on a vu ces dernières années l'élection de Trump aux États-Unis, Bolsonaro au Brésil, on a Viktor Orban qui est au pouvoir en Hongrie, Narendra Modi, qui était notre invité du 14 juillet d'Emmanuel Macron, qui est ouvertement islamophobe, premier ministre indien. Et en fait, l'idée, c'est de décrire les stratégies de séduction des extrêmes droites, en France comme ailleurs, en soulignant par exemple le basculement de l'idéologie raciste d'un critère biologique vers un critère culturel. Mmh. Par exemple, on note qu'aujourd'hui, les discours, que ce soit Zemmour ou Le Pen chez nous, ils visent à présenter l'étranger comme il serait mieux chez lui et nous chez nous, et il y a incompatibilité de nos deux cultures, point. Et en fait, de passer du biologique au culturel, ça a l'air beaucoup plus soft comme racisme, mais en fait, c'est toujours les mêmes recettes de suprématie d'une culture sur l'autre voilà, au mépris de celle-ci.
Là, tu as parlé d'un racisme, d'un racisme. Quels sont les autres ingrédients de cette nouvelle internationale fasciste?
Alors, les autres ingrédients, c'est justement cette idée de... En fait, il y a cette idée paradoxale de l'international fasciste. Ça rappelle un peu le mot de la phrase de Jean-Marie Le Pen dans les années 90. « Nationalistes de tous les pays, unissez-vous ». Et en fait, on a vu, depuis une quinzaine d'années, on a vu se créer énormément de médias dits alternatifs, mais à grosse consonance d'extrême droite. Et en fait, il y a aussi une stratégie internationale menée par des penseurs des quatre coins du monde, notamment Steve Bannon, qui a été un ancien conseiller de Trump, et qui, quand il a quitté ses fonctions, a entamé une tournée mondiale des extrêmes droites pour proposer une stratégie commune, et qui est une stratégie de réinformation. Voilà.
Ah ouais. Non, mais c'est ce qui est absolument fascinant et ce qui imprègne la société sans y faire, ce qui peut imprégner la société sans y faire attention. C'est-à-dire que c'est peut-être un soft endoctrinement par l'information.
Ah bah oui, ça marche. C'est à des gens comme ça qu'on doit notamment ce racisme basé sur un critère culturel. Mais en gros, la ligne directrice des fascismes dans le monde, c'est quand même que le chacun chez soi suffirait à résoudre tous les problèmes sociaux, économiques et environnementaux qu'on connaît. Et en fait, c'est profondément fallacieux. Mais à déconstruire, c'est pas évident parce qu'il y a une myriade d'experts, plus ou moins autoproclamés et plus ou moins médiatisés, qui déblatèrent allègrement là-dessus sur le fait que, au final, peut-être que si on avait moins de migrants, on doserait mieux nos ressources, on gérerait mieux nos ressources naturelles, etc., etc.
Oui, il y a des liens avec l'éco-fascisme et éventuellement un féminisme qui se teinte de fascisme pour ces raisons culturelles. On a peu de temps. Pour toi, quel est le mot le plus important du livre ?
C'est la sinuosité. C'est le fait que justement des discours qui, quand on les déconstruit, apparaissent très peu fondés, réussissent à se frayer un chemin dans l'esprit des gens, en France comme ailleurs, pour finir par conquérir des pans entiers de population. Et c'est relativement dangereux, c'est même très dangereux.
Cette lecture pour toi, c'est plutôt une bouée pour éviter de couler dans les eaux incertaines de notre époque, une longue vue pour s'aventurer vers des horizons lointains, une paire de lunettes nouvelles.
Je pense que c'est une longue vue réglable en paire de lunettes. En fait, moi, je me suis intéressé à ça parce que je vois de plus en plus d'amalgames du coup qui fleurissent dans les discours et dans les conversations. Effectivement, comme tu disais, ça recouvre tous les domaines. L'écologie n'est pas... Il y a un discours écologiste fasciste, il y a un discours féministe fasciste, et du coup, ouais, je pense que c'est une longue vue. Ça me paraissait important, moi, de comprendre les dynamiques de conquête des esprits par les idées fascistes, qui sont rarement appelées telles quelles. En fait, même dans les médias, on parle de populisme systématiquement quand on en réfère à l'extrême droite, et on a oublié complètement le mot fascisme, mais pas le principe.
Mais pas le principe. On en lit un petit extrait.
Alors du coup, on en lit un petit extrait où celui que j'ai retenu là comme ça, c'est l'idée, l'invalidité en fait et l'étrangeté des positions de l'extrême droite sur les logiques dans le domaine économique et social par exemple. Il y a deux pages, ça prend je pense 2 minutes. Les positions de l'extrême droite sur les questions économiques et sociales dépendent en fait presque intégralement du contexte, de la place de chaque pays dans la division internationale du travail, des rapports de forces politiques internes et externes, des objectifs tactiques de l'extrême droite à tel ou tel moment, des forces concurrentes, etc. On chercherait en vain une doctrine économique du fascisme comme du néo-fascisme. Ce n'est simplement pas leur sujet. Pour eux, l'important est en chaque circonstance d'accéder ou de se maintenir au pouvoir, et dans cette perspective, ils sont prêts à tenir à peu près n'importe quel discours à n'importe qui, pourvu que ça leur permette d'attirer à eux des pans toujours plus larges de l'électorat. C'est ce qui explique qu'ils puissent passer d'une position à une autre en la matière, ou dire simultanément à chacun ce qu'ils souhaitent entendre. On a beaucoup glosé pour expliquer les succès de Trump, de Orban ou de Le Pen sur leur prétendu discours social. C'est cela qui aurait permis, dit-on, de faire basculer vers l'extrême droite des territoires et des couches sociales dans lesquelles une majorité votait antérieurement à gauche. Pourtant, cette fibre sociale des extrêmes droites va rarement plus loin qu'un discours de déploration consistant à se désoler des effets du capitalisme, les fermetures d'usines, la vie chère, etc., sans pointer les causes, la production pour le profit, l'exploitation patronale, la rapacité des actionnaires, la pression du capital bancaire, etc. Les néofascistes n'ont d'ailleurs pas besoin d'aller très loin pour se démarquer des néolibéraux classiques. Il suffit à Marine Le Pen de refuser la retraite à 65 ans pour apparaître plus sociale qu'Emmanuel Macron, même si elle s'oppose de son côté au retour à la retraite à 60 ans pour tous et ne propose pas que les ouvriers partent en retraite plus tôt. Il est vrai que si une crise économique éclate, les extrêmes droites pourront pousser jusqu'à une rhétorique antilibérale, voire anticapitaliste, qui ne coûte pas grand-chose et qui permet de concurrencer la gauche sur le terrain de la contestation en s'affichant comme une alternative anti-système. Mais généralement, ce discours est toujours mêlé à un autre, consistant à s'ériger en dernier rempart des possédants face à des mouvements de contestation qui sèmeraient le chaos ou l'anarchie. Dans certaines occasions, pour séduire l'électorat de la droite ou nouer des alliances avec les partis conservateurs, les néofascistes pourront défendre des positions d'une orthodoxie économique parfaite, absolument favorable aux intérêts du grand capital. Et ce dernier le leur rend généralement bien, puisque, confrontés à des situations de grande instabilité politique, des pans entiers des classes possédantes n'ont jamais hésité à soutenir l'extrême droite, qu'il s'agisse de forces fascistes, Mussolini ou Hitler bien sûr, ou de coups d'état militaires comme Pinochet au Chili.
Un extrait de la Nouvelle Internationale fasciste de Hugo Paglietta, paru chez Textuel en 2022, le conseil de Quentin. Un mot pour terminer, effectivement, ce que tu as décrit, ça s'appelle tout simplement l'opportunisme. C'est quelque chose de vide et qui se remplit de tous les désirs supposés des citoyens.
Ouais. Je voulais juste noter pour terminer que si vous n'êtes pas très lecture et que vous préférez des contenus audio, ce livre en fait est une synthèse d'une série de podcasts réalisés par Hugo Paglietta qui se trouve sur la plateforme Spectre et qui s'appelle Minuit dans le siècle. Et là, chaque podcast détaille dans un entretien d'une heure une thématique de la montée du fascisme.
Merci beaucoup Quentin, c'était le conseil lecture d'Ether, donc déterminée et déterminante du jour, pour vous dorer l'esprit critique. Nous on se retrouve pour une autre lecture d'Ether bientôt, même heure à 11h ou 16h, et en replay sur fréquence7.net. D'ici là, restez vigilants grâce à la lecture. Lecture d'été, lecture d'éther, tous les jours à 11h et à 16h et en replay sur fréquence7.net. Lecture d'été, lecture d'éther.